Chapitre 3. À peine les prisonniers que suivait Chauvert avaient-ils disparu, que Don Miguel se levait vivement et s'avançait vers Inès et Jacques. « Tout ceci vous a bouleversé, mademoiselle, » dit-il avec un regard de compassion inquiète sur le beau visage pâle et un peu contracté. « Je tenais à vous faire connaître toute l'ignominie de ces gens qui vous ont si indignement trompé. Mais j'aurais peut-être dû attendre que vous soyez mieux remise. » « Oh, peu importe, » dit-elle d'une voix tremblante, « mais c'est si affreux !»« Vous pourrez le demander à Bille, mademoiselle, il a vu et compris. » Inès cacha sa figure entre ses mains. « C'est horrible, pensez que sans le bon Bille, mon pauvre petit Jacques !» Jacques, se penchant, entoura de son bras le cou de sa sœur. « Ne pense plus à toutes ces choses. C'est passé, Inès chérie. Moi, ça ne m'a pas fait d'effet quand j'ai entendu cela. J'ai été seulement en colère contre ce coquin de Maxence qui me faisait tant d'avance et de cajolerie. » « C'est un misérable personnage, » dit Don Miguel avec mépris. « Et cet individu osait prétendre à votre main, mademoiselle ?» Les yeux noirs, surpris et interrogateurs, se levèrent vers lui. « Comment savez-vous tout, monsieur ?» Don Miguel sourit. « Les frères de la justice sont partout, mademoiselle, et c'est moi, le maître, qui centralise toutes les découvertes pour en faire tel usage qui me plaît. Puisque vous avez déjà pénétré une partie du secret, je vous expliquerai un jour cette organisation si cela peut vous intéresser. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de vous reposer. » « Pardon, me permettez-vous une question, monsieur ?» « Mais toutes les questions qu'il vous plaira, mademoiselle. » « Vous avez parlé tout à l'heure d'une indélicatesse commise par mon bisaïeul, Don Alfonso de Garate. » Un peu de rouge était monté aux joues de la jeune fille, ses lèvres tremblaient, une anxiété flottait dans ses beaux yeux. « Il ne faut pas vous tourmenter, je vous en prie, » dit vivement Don Miguel. Don Alphonse regretta sans doute plus tard son acte, puisqu'il n'utilisa pas le document. Inès passa la main sur son front brûlant. « Mais il aurait dû le restituer, » murmura-t-elle. « Peut-être n'en a-t-il pas eu le loisir. En tout cas, ne vous tourmentez pas de cela, mademoiselle. Vous pouvez être bien tranquille, ce n'est pas nous qui essaierons jamais d'avoir cet or, » s'écria Inès. « Mais monsieur de Blangas avait eu bien soin de ne pas nous faire connaître le véritable motif de ce voyage, craignant sans doute l'opposition que j'aurais pu y mettre, car notre cher grand-père, dans la note jointe par lui au document, ne nous conseillait aucunement de tenter l'aventure. Lui, dont l'âme était si loyale, si intègre, devait avoir comme l'intuition que cet héritage de notre bisaïeul n'avait pas une source honnête. « Cela se peut, mademoiselle. » « Oui, je sais que M. Desnardières était l'intégrité même, comme votre père du reste. Ce fut certainement un moment d'égarement de la part de Don Alfonso. »« Vous êtes donc d'origine indienne, monsieur ?» interrogea Jacques, dont le regard naïvement admiratif ne quittait pas le beau visage du jeune chef. « En partie, oui. Mon grand-père paternel, le comte Robert de la Roche-Gléon, fut naguère ruiné par d'odieuses manœuvres d'ennemis acharnés et puissants. Il se réfugia au Pérou et y fit la connaissance du dernier descendant des Incas, Otetcal. Celui-ci avait une fille unique, délicieusement jolie. Mon aïeul s'en est pris et l'épousa. Alors le vieil Inca lui révéla le secret du trésor de sa race qu'il avait conservé de mémoire. Mon grand-père s'y rendit, le découvrit avec maintes difficultés et en rapporta de quoi acheter une hacienda qui devint rapidement très prospère. Mais une idée hantait son cerveau. Jamais il n'avait pu oublier les hideuses machinations qui avaient été cause de sa ruine, ni les malhonnêtes complaisances de la justice et du gouvernement à cette circonstance. Une amertume immense lui en était restée avec une pensée fixe. Et quand son fils fut devenu homme, il lui fit part de son projet. Il s'agissait d'établir une gigantesque association secrète, s'étendant sur le monde entier et ayant pour but de réparer les injustices, les erreurs, volontaires ou non, les lâches complaisances de la justice et de la société. Mon père avait une âme ardente, enthousiaste, en même temps qu'un esprit singulièrement réfléchi. L'idée le ravit, il voulut commencer à la mettre aussitôt à exécution. Peu à peu, il y eut un petit noyau d'adhérents, liés à lui par un serment terrible. Ces hommes, honnêtes gens, qui avaient tous eu à souffrir quelques douloureuses injustices, s'employèrent avec un zèle extraordinaire à en recruter d'autres. Mon père leur fournissait l'or, ce grand levier de toutes les œuvres humaines, et sa vaste intelligence, son ardeur et sa ténacité les dirigeaient et les fortifiaient dans leurs tâches. Il avait épousé une Péruvienne, une jeune orpheline qu'il avait délivrée de la tyrannie d'un tuteur odieux en faisant exécuter celui-ci par les frères de la justice. Ma mère mourut en me donnant le jour, et ce fut lui qui m'éleva, me forma pour lui succéder dans sa grande tâche. Il avait organisé ce camp de Solepto pour en faire comme son quartier général, en même temps que pour garder contre toutes les convoitises le gisement aurifère, héritage de nos ancêtres. Des hommes, choisis parmi les plus sûrs de l'association, recrutés dans toutes les nationalités, payés royalement et menacés de terribles châtiments au moindre essai de trahison, en constituèrent la garnison. J'avais à peine 18 ans lorsque mon père, sentant augmenter une maladie incurable qui le tourmentait depuis plusieurs années, me présenta à eux comme leur chef, et leur fille me prêtait serment de fidélité absolue et d'obéissance passive qu'il lui avait fait autrefois. 2 ans plus tard, mon pauvre père s'éteignit entre mes bras à notre hacienda de Santa Lucia. Une brève émotion passait dans le regard de Don Miguel et fit un peu frémir sa voix. Mais il continua aussitôt. À cette époque, nous comptions déjà un grand nombre d'adhérents, non seulement dans toute l'Europe et les 2 Amériques, mais encore dans le reste du monde. Depuis lors, 8 ans se sont écoulés et nous sommes devenus une puissance. Je ne saurais dire seulement d'une manière approximative le nombre d'injustices que nous avons empêchées, réparées ou punies. Nos affiliés sont partout, ils appartiennent à toutes les classes de la société. Tenez, voici qui va vous en donner une idée. Le domestique de votre cousin Blanga était un des nôtres et me renseignait sur tout ce qui se passait chez l'estimable député. Celui-ci fut pris un jour de défiance, il renvoya du même coup domestique, cuisinière et femme de chambre. Or, cette fois, ceux qui les remplacèrent appartenaient tous 3 à l'association. Jacques éclata de rire. « C'était très chic, ça. C'est joliment bien machiné, votre affaire. Alors, vous saviez tout ce que projetaient les Blangards ?»« Tout, absolument. » Et sur le paquebot, j'avais pour les surveiller M. Selvado, ce négociant que je sauvais de la faillite, en l'enrôlant parmi les frères de la justice. C'est lui qui, sur l'ordre que je lui en fis donner, s'introduisit chez Blangard pour piquer sur son lit, à l'aide d'une Navaja, le signe avertisseur de l'association. C'est lui encore qui tua le petit chien de votre cousine pour montrer que les frères de la justice atteignent quand ils veulent et frappent sans pitié. « Mais c'est affreux, cela !» dit Inès, devenue toute pâle, en regardant le jeune homme avec une inquiétude au fond de son regard. « Avez-vous peur de moi, mademoiselle ? » demanda-t-il en se penchant un peu. Elle se leva en détournant ses yeux de ses étincelantes prunelles bleues qui lui produisaient une sensation étrange, mélange d'attrait et d'effroi. « Oui, vous me faites peur !» dit-elle d'une voix tremblante. Ces vengeances secrètes, ces crimes mystérieux, ce perpétuel espionnage, c'est effrayant. Vous dites ? Il se dressait brusquement devant elle, le regard brûlant d'irritation si intense que la jeune fille frémit de tous ses membres. Crime, espionnage, vous osez qualifier ainsi mon œuvre ? Il lui avait saisi le poignet et le secouait avec violence. Terrifiée, Inès sentit ses forces l'abandonner et glissa inanimée sur le divan. Quand elle revint à elle, elle vit Jacques, tout pâle d'inquiétude, qui lui soutenait la tête, la bonne Alonso approchant de ses narines un flacon de vinaigre. Et, tout près, un genou en terre, lui tenant la main entre les siennes, toute frémissante, Don Miguel, dont le regard anxieux et désolé l'enveloppait. Elle eut un mouvement d'effroi et retira brusquement sa main en détournant les yeux. Don Miguel devint livide. « Je mérite ce traitement de votre part, mademoiselle. Je me suis conduit d'une manière inqualifiable. Tout ce que j'ose solliciter, c'est l'espoir que vous me pardonnerez un jour. »«
Je ne vous en veux pas, monsieur, » dit-elle faiblement sans le regarder. « J'ai eu le tort d'exprimer toute ma pensée sans réfléchir que je pourrais vous froisser. Si vous croyez agir pour le bien... »«
Ne vous accusez pas, c'est moi seule qui suis coupable. » Froissé ou non, je ne devais pas oublier les égards qui vous sont dus. Mais l'habitude du pouvoir absolu, de la soumission passive autour de moi, m'a rendu très peu apte à supporter le blâme ou la contradiction. Ainsi, vous voulez bien me pardonner, mademoiselle ? Cette fois, elle le regarda, et, cédant à la prière instante de ses yeux d'un bleu profond et mystérieux, elle lui tendit la main.
« Oui, je vous pardonne volontiers, monsieur. » car je sens que vous êtes gentilhomme et que ce ne fut là qu'un mouvement trop vif de votre part.
« Que je regretterai toujours, » murmura Don Miguel en effleurant de ses lèvres les doigts d'Inès. Un peu de rose monta aux joues pâles de la jeune fille. Elle se redressa sur le divan et se mit debout en s'appuyant au bras de Jacques.
« Te sens-tu mieux, mon Inès ?» demanda le jeune garçon.
« Oui, oui, j'irai très bien maintenant jusqu'à ma chambre. »«
Allons, ça va vous reconduire, » dit Don Miguel. « Et surtout, demandez-lui tout, absolument tout, ce qui vous sera utile ou agréable. Les ressources de Soletto sont très grandes, je les mets à votre entière disposition. Ne me remerciez pas, mademoiselle, j'ai beaucoup à réparer envers vous, maintenant surtout. » Il s'inclina profondément et la jeune fille sortit au bras de Jacques, tous deux suivant Alonso. Comme ils pénétraient dans la salle au sol rutilant, une ombre passa entre deux piliers. Alonso appela.
« C'est toi, Vicenta, viens saluer la signorita. »
Une jeune fille s'avança. Elle était petite et mince, son visage assez régulier, au ton de bronze clair, rappelait celui d'Alonso.
« C'est ma fille, la sœur de lait du Cabecchia, » dit Alonso.
Inès apprêtait à dire un mot aimable, car elle était reconnaissante des soins dévoués dont l'entourait l'excellente femme. Mais ce mot expira sur ses lèvres et se changea en une phrase banale et gênée devant le regard hostile, presque mauvais, des yeux noirs de la jeune indienne.
« Le Cabecchia ordonne que tu te mettes au service de la señorita, » dit Alonso.
Les traits de Vicenta eurent une rapide mais violente contraction.
« Oh, je n'ai besoin de personne !» dit vivement Inès. « J'ai toujours eu coutume de me servir seule. »
« Le Cabecchi a le vœu, señorita. Il faut lui obéir. » Et sur cette réplique, que dans sa soumission aveugle et dans sa vénération passionnée pour son jeune maître, la bonne indienne jugeait péremptoire, Alonso s'éloigna, précédant toujours les deux jeunes gens, tandis que Vicenta disparaissait derrière les lourds piliers.
« Elle ne me plaît pas, la fille d'Alonso, » fit observer Jacques quand il se trouva seul avec sa sœur dans leur appartement.
« À moi non plus, mais je pense que nous n'aurons guère affaire à elle, car quoi qu'en dise Alonso, je suis bien décidé à refuser ses services. Du reste, je ne suppose pas que nous nous éternisions ici, puisque Don Miguel a l'intention de nous rendre la liberté. » « Va maintenant prendre un peu l'air, mon Jacques. Je vais me reposer. »
Quand son frère se fut éloigné, Inès s'étendit dans un fauteuil. Les émotions éprouvées tout à l'heure l'avaient brisée et lui occasionnaient un retour de fièvre. Elle essaya de somnoler pour calmer son cerveau surexcité. Mais toujours, elle se retrouvait là-bas, dans cette tente somptueuse, devant cet être étrange qui s'érigeait en justicier et qui possédait un si mystérieux pouvoir. Elle revoyait les autres prisonniers, les condamnés maintenant. Et un frisson la secouait à la pensée que, bientôt, l'impitoyable justice du roi des Andes les rayerait du monde des vivants. Certes, ils avaient tous été coupables, mais la punition était terrible. Et Don Miguel avait-il le droit de l'infliger? Puis, ces hommes allaient tomber dans l'éternité, paraître devant leur juge avec un épouvantable poids de leur faute. À cette idée, l'âme chrétienne d'Inès tressaillait de douloureuses terreurs. Mais le roi des Andes serait inexorable, elle l'avait bien compris tout à l'heure,
lors de son timide essai d'intercession en leur faveur.